pensée de Paris Vêtements. Alors, qu'ils se mettent un petit peu plus loin pour parler. Il y a de l'espace libre, il y a beaucoup d'espace libre. Je dis ça pour que on essaie de garder le plus qu'on peut cette dimension de contemplation pendant ces quelques jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est important, c'est même très important pour nous, pas perdre la qualité divine de ces jours, la grâce de Dieu. Alors il faut s'aider, on est tous responsables du silence. Alors on sait très bien que seule la grâce de Dieu peut nous permettre de garder le silence, parce que naturellement, l'homme est un animal qui parle. Il est tellement heureux d'avoir cette originalité par rapport au petit cochon, par rapport à tous les autres animaux. Oui, parce que les petits cochons sont nos voisins, tu vois. Alors, on aime tellement bien. Vous savez pourquoi ils sont tout proches? C'est pour que tous les démons de la communauté aillent chez eux. C'est pour ça. Ça, on peut plus facilement les exorciser, la communauté, que la communauté va garder davantage le silence. On les précipite là. On va continuer d'entrer dans ce grand mystère de l'agonie. C'est la tristesse qui est dans le cœur de Jésus. Se relevant de sa prière, venant vers les disciples, les trouvait endormis, tristesse, et leur dit: qu'avez-vous à dormir? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. La tristesse fait dormir les disciples, et la tristesse fait prier Jésus. Mon âme est triste jusqu'à en mourir. C'est vrai que l'âme du Christ connaît cette tristesse extrême, puisque le mystère de l'agonie, c'est Jésus seul. Il y a les deux mystères de solitude, le sépulcre et l'agonie. La croix, c'est la vie commune. Une vie commune terrible. Une vie commune où l'on est bafoué, on est rejeté, on ne connaît pas beaucoup de tendresse à la vie commune, à la croix. Mais l'agonie, c'est très nettement un mystère de solitude, parce que c'est un mystère de prière, avant tout, et que la prière nous met toujours en premier lieu dans la solitude. Quand vous voulez prier, Jésus le dit, retire-toi dans ta chambre. Et là, dans le secret de ton cœur, rejoins le Père qui regarde le secret de ton cœur. Et c'est très important de se rappeler ça. Je sais très bien qu'au début, c'est pas commode. Quand on n'est pas habitué de prier, on a de la peine à prier dans la solitude. C'est plus facile de prier en communauté. C'est vrai, c'est plus facile. La prière liturgique est plus facile. Et la prière liturgique présuppose l'oraison. Et la prière liturgique conduit à l'oraison. Et donc, le mystère de la solitude du Christ dans l'agonie, c'est très important. C'est sans doute pour ça que le Père a permis que les trois s'endorment avec les autres disciples, Pierre, Jacques et Jean, et que Jésus soit seul avec le Père. De toute façon, il aurait été seul à un jet de pierre. C'est très extraordinaire que Jésus éprouve le besoin de cette solitude. Saint Jean Chrysostome dirait, c'est pour nous en donner l'exemple. Nous avons besoin de solitude pour prier. Mais aujourd'hui, ou très facilement, le point de vue de la communauté l'emporte. Il faut que nous comprenions qu'il y a quelque chose d'irremplaçable. C'est la solitude dans la prière. Marthe Robin le sentait très très fort, ça. Et c'est pour ça qu'elle disait que Marie, c'était le désert de Dieu. Le désert, le lieu de l'adoration, le lieu où on est seul avec Dieu. Et que ce n'est pas pour la communauté. On peut prier avec la plus grande intensité. Il y a une qualité de prière qui exige la solitude. Ça me semble capital à toujours se rappeler ça et le vivre. Parce que c'est pas seulement de le savoir, mais le vivre. Vivre cette intensité de prière dans la solitude. Vous voyez, l'oraison du matin, on est chaque dans la solitude. Au bout d'un certain temps, ça ne gêne pas beaucoup d'avoir son frère qui est à côté puisqu'il reste dans le silence. C'est pas gênant. Si, évidemment, il soupirait et de temps en temps, il se mettait à nous dire tout ce qu'il portait dans son cœur, ce serait peut-être un peu plus gênant. Mais habituellement, on est dans le silence. Et ce silence, seul en face du Père. Pourquoi la solitude? À cause de l'adoration. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans adorer. Vous vous souvenez de ce texte si impressionnant de l'ancienne alliance? Moïse, qui s'approche du buisson ardent, il enlève ses sandales. C'est un signe que pour s'approcher de Dieu, il faut adorer. L'adoration nous met dans la nudité de la créature. Et enlever ses sandales, c'est ça que ça veut dire. Toutes les choses secondaires, les sandales, toutes les choses secondaires disparaissent pour être seul avec Dieu. Et Dieu regarde en nous ce qu'il y a de premier, ça c'est le regard de Dieu. Dieu ne s'intéresse pas en premier lieu aux choses secondes. Parce qu'il y a ce regard de Dieu qui est un regard de sagesse, il regarde toujours ce qu'il y a de premier en nous. Ce qu'il y a de premier en nous, c'est notre intention d'adorer. Adorateur en esprit et en vérité. Jésus, dans le premier désert de sa vie apostolique, Jésus a choisi ce désert pour nous montrer l'importance de l'adoration. Jésus, dans ce désert très particulier d'agonie, nous montre encore l'importance de l'adoration. Je crois qu'on ne comprend rien à l'agonie si on entre par la porte étroite, l'adoration. Il y a une adoration en esprit, en vérité, du Fils bien-aimé. Jésus adore pour tous ceux qui n'adorent pas, puisque de fait, il se présente en face du Père comme le responsable de toute l'humanité. Et s'il se présente en face du Père comme le responsable de toute l'humanité, Jésus nécessairement porte l'iniquité du monde. Et la première iniquité du monde, selon le langage de l'Écriture, c'est toujours, toujours l'infidélité. Et l'infidélité qui prend ce langage très particulier de l'adultère. Et l'adultère, c'est c'est la fidélité qui est réclamée en premier lieu. Et la fidélité, elle est vécue en premier lieu dans l'adoration. Vous voyez, la prière, c'est pas premièrement d'avoir des belles idées. Même si on n'a aucune idée, ça n'a aucune espèce, ça c'est même mieux. D'une certaine manière, on adore mieux. C'est un acte d'amour. Et on aime en adorant. L'adoration, c'est le premier acte d'amour de la créature à l'égard de son Dieu. C'est-à-dire de disparaître en face de Dieu pour laisser toute la place à Dieu. Jésus, durant son agonie, adore en esprit, en vérité. Et cette adoration porte l'infidélité de toute l'humanité. Infidélité provenant de l'orgueil. Comment peut-on lutter contre l'orgueil? C'est l'adoration. C'est l'arme divine. Or, notre péché dominant, pour chacun d'entre nous, c'est l'orgueil. Pas la peine de faire une retraite de 8 jours pour découvrir votre péché dominant. Vous le savez tout de suite. Et ça, je peux vous le certifier. Et je ne dévoile aucun péché. Il n'y a aucune faute en le disant. Là, nous avons un terrain commun avec des rivalités communes. Nous sommes tous des fiévés orgueilleux. C'est bien évident. Et ça repousse, vous savez. On fait de temps en temps des actes d'humilité. Oui, oui. C'est déjà bien. On fait de temps en temps des actes d'humilité, mais ça ne dure pas. Et ça repousse tout de suite. L'orgueil, c'est terrible, l'orgueil. Ça prend des visages de vanité, de bêtise. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. On a envie de dire, mais tu ne t'es jamais regardé. C'est ça la vanité. Mais l'orgueil, le serpent qui mord sa queue, c'est une bêtise. On est bête quand on est orgueilleux. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'on n'est pas intelligent pour celui pour qui il faut être d'abord intelligent. Dieu. Or, l'orgueil nous rend bêtes à l'égard de Dieu. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui nous permet de lutter contre l'orgueil? C'est l'adoration. C'est pour ça que la première chose qu'on doit faire, quand on apprend un tout petit peu à faire oraison, et tant qu'on est sur la terre, on est des novices dans l'oraison. Même si vous avez eu de très grandes grâces d'oraison, dites de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix était un novice dans l'oraison. Puisque l'oraison, c'est l'attente de la vision béatifique. Et par rapport à la vision béatifique, on est tous dans un état embryonnaire. On est toujours dans cette attitude de novice, de petitesse. C'est l'oraison. Et quand Dieu supprime toutes les grâces délectables, c'est vrai, quelquefois on peut avoir des grâces d'oraison, des grâces d'oraison qui fait qu'il suffit de se mettre à genoux pour qu'immédiatement on soit inondé de grâce. Une douche divine, merveilleuse, on est inondé de grâce, il suffit d'entrer dans la chapelle, on soit inondé de grâce. Ça ne dure pas. Dieu fait ça de temps en temps pour nous attirer, pour nous séduire. Mais comme Dieu n'aime pas de prolonger la séduction, parce qu'il n'aime pas ça, parce que la séduction, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas vrai. Vous savez, on ne sait jamais. Ça dure un petit moment, c'est très très bien. Les petites fleurs printanières, séduction, c'est terriblement séduisant, un soleil comme ça, depuis ce matin. C'est splendide sur la route. Le Saint-Jean-d'Arc, ah, il n'y a jamais vu une route aussi belle. Il n'y avait pas un nuage merveilleux. Et ce petit printemps extraordinaire. C'est la séduction. C'est extraordinaire. Mais il faut dépasser ça tout de suite pour découvrir autre chose. C'est le labour de l'adoration. L'adoration. Notre cœur est un cœur de pierre. Quand il faut tailler dans le roc, on sait ce que c'est. Et faire pousser là-dedans des petits arbres, on sait ce que c'est. C'est. Le roc. Pas commode. Oh, c'est ça le là dans l'horizon. Notre cœur est un cœur de pierre. À cause du péché. À cause de l'orgueil. Et si Dieu nous fait sentir ça très fort, c'est parce que Dieu nous unit. Raison doit être une raison contemplative, apostolique. Que deviendront les pécheurs? C'est l'horizon de Jésus dans son agonie. Il n'y avait pas beaucoup de grâce sensible à l'agonie. Je crois que Jésus, dans son agonie, a connu la plus grande sécheresse d'un cœur aimant. Et pour lui, c'était terrible, puisqu'il se mettait à la place du pécheur. Et le pécheur, c'est l'orgueilleux. Il se mettait à la place de l'orgueilleux. Il acceptait de porter toutes les conséquences de cela, et donc d'avoir un cœur aride, comme un cœur de pierre. plus suprême. L'agonie, c'est la solitude dans la tristesse. Un second mouvement demande que la vins, c'est n'avoir qu'un seul désir, c'est que la volonté du Père s'accomplisse en nous. C'est ça le propre de l'abandon évangélique. Et c'est le fruit direct de l'adoration. mystérieuse que soit cette mort. C'est pas cela, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a un lien avec l'apocalypse. Et ça, c'est important à saisir. Jésus est là, au nom de toute l'humanité. C'est Jésus, tête du corps mystique. C'est Jésus qui reprend tout, puisque c'est le début de la passion. Et si Jésus est là, au nom de toute l'humanité, Jésus demande au Père que cette coupe, c'est-à-dire la manière dont le Père veut sauver les hommes, fermement du Père. C'est ça la coupe. Et ce discernement du Père, c'est que les hommes sauvés par le Christ suivent le Christ jusque dans son mystère de rédemption. C'est que l'Église sauvée par le Christ le mystère de la compassion. Que l'Église puisse achever ce qui manque à la passion de Jésus. Je suis persuadé que c'est cela le symbolisme de la coupe. C'est difficile à expliquer au point de vue théologique, mais je crois que c'est vraiment cela qu'on doit essayer de découvrir. Jésus a une générosité infinie. Faut pas l'oublier. Hein. On peut pas découvrir dans l'âme du Christ un manque de générosité et un manque de don de lui-même. Donc dans l'ordre du don de lui-même, il va jusqu'au bout. Et cela ne le fait pas peur. Puisqu'il y a une plénitude d'amour. Donc c'est pas de ce côté-là qu'on doit comprendre la prière de Jésus. C'est pas pour lui, c'est pour nous. Alors ça oui, Jésus sait, dans sa science infuse, il sait que le sacrifice qu'il va réaliser à la croix suffit à sauver tous les hommes. Une seule goutte de sang aurait suffi. La sueur de l'agonie aurait suffi. Jésus sait cela. Alors, il demande au Père d'épargner tous ceux qu'il va sauver. Parce qu'il sait trop bien combien c'est rude la croix. Et combien ce n'est pas très uni au Père dans cette volonté d'accomplir pleinement sa volonté. On faiblit. On s'arrête. On prend la tangente. C'est tellement plus facile. Jésus sait la fragilité des hommes. Et Jésus demande au Père que ce calice, le calice tel qu'il est présenté dans l'Apocalypse, le calice de toute Église, puisque tout commence par lui. Il est la tête qui entraîne les autres. Jésus voudrait être le seul à souffrir. Et ça, je crois que nous pouvons très bien le comprendre. Quand on a un cœur magnanime, un cœur royal, c'est le propre du cœur magnanime. On veut être seul à souffrir. Et on a horreur d'être cause de souffrance pour ceux qu'on aime. On a horreur de les attirer vers la souffrance qu'on porte. On voudrait seul, voyez-le. extraordinaire, ça. Et c'est le jeu de miroir, hein, au point de vue affectif, au point de vue de l'amour. Et c'est vrai que c'est dans la souffrance transformée par l'amour que l'unité la plus profonde se fait. Quand il n'y a pas de souffrance, n'ose presque pas dire. Maudit celui qui est attaché au bois. Et c'est vrai, Jésus sait bien ce que c'est que cette malédiction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Selon les six signes de l'Apocalypse, selon le langage de l'Apocalypse, on voit bien que plus on s'approche du terme, c'est-à-dire du retour du Christ, c'est avant tout et en premier lieu